Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo et le Japon décident d'intensifier les échanges commerciaux. C'est ce qui ressort de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, clôturée ce vendredi à Yokohama, au Japon. Une cinquantaine de jeunes sensibilisés à Kinshasa sur leur rôle dans la consolidation de la paix en RDC. C'était au cours d'un échange intergénérationnel aux côtés de plusieurs personnalités du pays à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. La conférence sur la vulgarisation des textes de la réforme et de la police s'est clôturée hier en Mbujimayi au Kassai-Oriental. Ces travaux de 3 jours ont été financés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Nous en parlons avec Alain Kateta, chef du bureau du PNUD dans le Grand Kassai. Il est l'invité du journal. D'abord cette nouvelle, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo est arrivé ce samedi ici à Kinshasa. Il a été accueilli au Palais de la Nation par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thérèse Kayikwamba. D'après la presse de la présidence de la République du Congo, les deux chefs d'État vont probablement évoquer des questions ayant trait à la consolidation des relations qui lient les deux pays dans différents domaines. Mesdames et messieurs, bonsoir. Clôture ce vendredi à Yokohama, au Japon, de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La RDC décroche l'augmentation des échanges commerciaux avec le Japon à travers la signature attendue d'un accord sur la promotion et la protection des investissements japonais en RDC. D'autres détails avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, dans cet extrait choisi par Jean Gando.
L'Afrique et le Japon ont décidé en fait de co-créer des solutions innovantes pour l'humanité. Et ces solutions innovantes passent par l'utilisation des technologies, parce que le Japon en a déjà suffisamment. Au niveau du commerce international, eh bien, nous sortons du Japon avec l'idée de signer un accord qui va aider en fait le Japon et la RDC à pouvoir évacuer tous les obstacles liés au commerce. Ces obstacles s'érigent dans les mécanismes que chaque pays a mis en place, notamment des taxes, des impôts. Cet accord va nous aider effectivement à pouvoir promouvoir les investissements entre les deux pays et à mettre en place un système qui permette à ce que les Japonais comme la RDC accèdent à des facilités pour que les investisseurs japonais soient nombreux à s'installer en RDC.
Bonne nouvelle pour les habitants de la ville-province de Kinshasa. Le transport ferroviaire interurbain reprend bientôt. 7 voitures à voyageurs du chemin de fer arrivées en RDC via le port international de Matadi depuis décembre 2013 seront mises en service sous peu. Jean-Claude Ngoma Moussa, sous-directeur délégué chemin de fer Matadi, qui donne l'information, affirme que les techniciens thaïlandais que l'ONATRA attendait sont déjà à Matadi et forment les conducteurs de ces engins dont la mise en service va répondre aux questions des embouteillages dans la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Des précisions avec Jean-Claude Ngoma Moussa au micro de Nana Plourish Mambo.
Ce sont des voitures à voyageurs, elles sont au nombre de 7 et la précision est que nous n'avons pas besoin de locomotives pour tracter ces voitures. Donc ce sont des voitures qui peuvent se mouvoir d'elles-mêmes. Ces voitures sont arrivées à Matadi il y a cela 2 ans. Les tractations étaient en cours. Nous attendons les techniciens finalement qui sont arrivés pour la mise en service de ces voitures. Après les contrôles techniques qui sont en train de se faire ici sur place, ces voitures vont monter à Kinshasa. Et pour leur affectation, dans un premier temps, elles vont servir pour le transport interurbain dans la ville de Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, c'est une grande mégapole où il y a des sérieux problèmes d'embouteillage. Et l'ONATRA, à travers sa direction des chemins de fer interurbain, est déjà opérationnel sur l'axe gare centrale Kazangulu. Et je vous informe aussi que la voie limitée jusqu'à l'aéroport d'Ndjili est en pleine réhabilitation. Et je pense que elle sera aussi jetée pour le voyageur grande ligne, c'est-à-dire Kinshasa Matadi. Et l'arrivée de ces voitures va réellement soulager les problèmes de mobilité dans la ville province de Kinshasa et pourquoi pas pour les trafics grande ligne Kinshasa Matadi.
Pendant ce temps, en Ituri, circuler entre Bounia et Mahagi sur la route nationale numéro 27 est un parcours du combattant. Entre bourbier, dégradation avancée, tracasserie administrative et militaire et extorsion des biens, en tout cas, les conducteurs dénoncent une situation devenue insupportable. Suivez ce reportage de notre collègue Jean-Claude Lokidile qui a parcouru cette route.
Ici, sur la RN27, la route est dégradée et jonchée de bourbiers qui ralentissent la circulation. Les véhicules s'embourbent et les conducteurs s'impatientent.
Regarde le tas de la route. C'est depuis 4 jours que nous sommes sur cette route. On a payé 700 à 800 dollars auprès des services de l'État et nous avons un convoi de 10 camions. Nous nous rendons à Badegaïdo à environ 150 km.
Cette route nationale est pourtant vitale. Elle relie Bounia à Mahagi et sert de corridor économique vers des pays voisins. Mais sa dégradation freine les échanges commerciaux et renchérit le coût du transport. Les plaintes des usagers se multiplient sans réponse durable des autorités. Nous avons quitté Bounia à 10h et nous sommes arrivés ici à 13h. Il est presque 16h. C'est un milieu dangereux à cause de la sécurité. S'il y a lieu d'arranger cet endroit. Toutes nos tentatives pour recueillir la réaction de l'entreprise ORC, Oriental Roads and Constructions, en charge de la réhabilitation et la maintenance de cette voie n'ont pas abouti. En attendant, chauffeurs, commerçants et voyageurs espèrent qu'une réhabilitation rapide mettra fin à ce calvaire pour que ce corridor vital rouvre sa place dans les échanges commerciaux dans la région. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Processus de Washington et de Doha. Enjeux, perspectives et rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix en RDC. C'est le thème de la rencontre qui a réuni jeudi plusieurs jeunes et quelques personnalités du pays à Kinshasa. Échange intergénérationnel, c'est le nom donné à cette activité organisée en marge de la Journée internationale de la jeunesse qui intervient le 12 août de chaque année. Rachel Kalombe et Wamingi Tukulu y ont pris part. Voici leur compte rendu.
Près de 50 jeunes ont pris part à cette rencontre visant à les conscientiser pour la stabilisation de la paix en RDC. À cette occasion, le sénateur Didier Mumengi a résumé pour eux le deux processus Washington et Doha. Il précise qu'il consiste à mettre un arrêt définitif au cycle des guerres qui n'arrêtent pas de provoquer des hémorragies en RDC depuis 1960.
Notre pays est en état d'hémorragie. L'urgence, c'est clamper. Et clamper, c'est arrêter l'hémorragie. Et c'est cela, le processus de Washington. Les sutures, c'est le processus de Doha. Que le cessez-le-feu a été réclamé par Washington et Doha peut maintenant entrer dans un processus thérapeutique le plus intégral, le plus global, pour une paix durable.
Et le voilà. La représentante du ministre de la Jeunesse appelle les jeunes à être artisans de la paix partout, sur terrain de sport, à l'école ou au village. Elle estime qu'en s'investissant dans la paix, la jeunesse peut contribuer à bâtir un avenir différent.
La République démocratique du Congo traverse depuis plusieurs décennies des périodes de turbulences sécuritaires dans l'est de notre territoire. Des milliers de nos compatriotes ont été déplacés, des vies ont été perdues, des villages détruits, et dans tout cela, où nous, la jeunesse congolaise, a souvent été à la fois victimes, témoins et même parfois malheureusement instrumentalisés. Mais aujourd'hui, le processus de paix engagé par le président de la République vise aujourd'hui à mettre fin à la logique des armes pour ouvrir celle du dialogue.
Cet échange intergénérationnel s'est terminé par un appel à la jeunesse à rejeter la manipulation et la division. Elle est aussi invitée à appuyer les initiatives locales de paix portées par les jeunes leaders et les organisations communautaires.
Et dans la ville de Beni au Nord Kivu, la table ronde humanitaire s'est clôturée jeudi autour du vice-gouverneur des provinces. Une centaine des représentants d'organisations humanitaires et d'agences des Nations Unies ont participé à cette rencontre, au cours de laquelle les actions humanitaires dans la région ont été évaluées, ainsi que les difficultés rencontrées. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'accompagner ces humanitaires opérant dans les zones en conflit, mais aussi sur la lutte contre la désinformation à travers les actions des acteurs de la société civile et certains jeunes. Marc Emarofimo pour les détails. présidée par le vice-gouverneur du Nord Kivu. La rencontre a salué les actions des organisations humanitaires dans une région où les interventions se déroulent souvent à zone de conflit. S'y ajoutent les cas des tracasseries de certains services de l'État et la multiplication des taxes qui entravent le bon fonctionnement de leurs activités. Toutefois, les autorités ont assuré les humanitaires de leur accompagnement, une garantie pour poursuivre leur travail, a déclaré le responsable assistant du bureau de coordination des affaires humanitaires dans la région. Il a également invité les jeunes et la société civile à soutenir ses efforts, notamment dans la lutte contre la désinformation dont les organisations humanitaires sont parfois victimes. Franck Adubangu.
Cette assurance de l'autorité nous garantit encore davantage pour apporter l'action humanitaire. C'est aussi un moment pour moi de pouvoir rappeler surtout aux jeunes, mais aussi aux forces vives diverses, que les humanitaires attendent leur accompagnement, surtout dans la lutte contre la désinformation. Nous, les humanitaires, nous avons été parfois victimes de l'utilisation de cette technologie qui, pourtant utile, mais des fois nous préjudicie.
Signalons que la journée de l'aide humanitaire a été célébrée cette année sous le thème « Agir pour l'humanité ». Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons à Beni pour vous dire que le renforcement de la coopération militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et la force de la MONUSCO était au menu des discussions hier à Païda, quartier général du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, entre le commandant de la brigade d'intervention de la MONUSCO et celui du secteur opérationnel Sokola 1. Objectif, améliorer les capacités opérationnelles des deux forces dans cette région secouée par l'insécurité pour une meilleure protection des civils. Dans la même région de Beni, une trentaine de jeunes ont été interpellés vendredi par les services de sécurité à Oicha, commune rurale située à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni. Ces derniers sont soupçonnés d'être les auteurs du meurtre des deux militaires des FARDC par justice populaire la nuit de jeudi à hier vendredi dans le quartier Tenambo, après les avoir confondus avec des rebelles des ADF. Prince Kambale Moussavouli, activiste des droits humains à Oicha, dit craindre que cette interpellation n'affecte le mariage civilo-militaire et demande leur libération. Il est au téléphone de Marc Marofimbo.
Ces abus menacent gravement les mariages civilo-militaires. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les civils arrêtés arbitrairement. Le respect strict des procédures judiciaires pour tout citoyen soupçonné d'effraction. Nous prenons en témoin la CCO d'Oicha, l'administrateur du territoire de Beni, ainsi que les organes des Nations Unies. La population d'Oicha déjà victime de massacres à répétition des ADF. Plus de 98% dans le deuil et la vulnérabilité. Au lieu de la protéger, elle subit aujourd'hui encore des actes inhumains et dégradants. De la part de ces sachets assurer sa sécurité, nous appelons les autorités civiles et militaires à assurer pleinement leurs responsabilités afin que cessent ces pratiques qui ternissent l'image de l'État et alimentent le méfiance entre la population et ses forces de sécurité.
Contacté à ce sujet, l'administrateur militaire du territoire de Beni appelle la population calme. Il affirme qu'une dizaine de jeunes interpellés ont déjà été libérés vendredi. Le colonel Charles Ehuta Omeonga ajoute que les autres restent en détention pour des raisons d'enquête. Par ailleurs, dans le Maniema, le couvre-feu instauré depuis le 14 août courant par le Conseil de sécurité est levé. Siégeant dans un Conseil de sécurité ce vendredi, les membres du Conseil ont jugé calme la situation sécuritaire après les accrochages entre les Wazalendo et les forces de l'ordre ayant coûté la vie à 9 personnes, plusieurs blessés et dégâts matériels. Dans son communiqué, l'autorité provinciale affirme que désormais, seules les forces de défense et de sécurité assureront la sécurité des personnes et de leurs biens dans le strict respect des instructions qui leur sont données. On écoute le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse, dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Après évaluation de la situation sécuritaire dans la ville de Kindu, les membres du comité provincial de sécurité ont constaté de manière unanime que la situation était revenue à la norme. C'est à cette occasion que nous avons décidé d'élever la mesure de couvre-feu. À cette occasion, nous remercions d'abord la population pour sa collaboration et là, nous demandons de continuer cette collaboration, surtout qu'elle puisse rester vigilante par rapport à quelques éléments résiduels qui pourraient se retrouver par-ci par-là. Donc, je demande vivement au bourgmestre, chef de quartier, chef de bloc, d'activer les Nyumbakumi, savoir les mouvements des populations, savoir qui fait quoi pour que la population se sente en sécurité comme elle a toujours été avant ces événements.
Actualité internationale.
Nous sommes en Guinée. Trois partis politiques, dont les deux principales formations du pays, ont été suspendus. Il s'agit de l'UFDG, dirigé par l'ex-premier ministre Sélou Daline Diallo, le RPG, ancien parti au pouvoir d'Alpha Condé, et le PRP. Ces suspensions interviennent alors que la campagne pour le référendum constitutionnel devait s'ouvrir demain dimanche, campagne qui a été finalement reportée au 31 août, selon un décret lu hier soir à la télévision publique.
L'invité.
Au Kassai Oriental, clôture hier en Mbujimayi de la conférence sur la vulgarisation des textes de la réforme et de la police. Ces travaux financés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a réuni pendant trois jours les commandants des unités de la police, les autorités politiques et administratives ainsi que les acteurs de la société civile. Alain Kateta, chef du bureau du PNUD dans le Grand Kassai, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, monsieur Alain Kateta.
Bonjour, madame.
Vous vous retrouvez aujourd'hui en Mbujimayi. Quel est le but de votre mission ici?
Madame, je suis ici au nom du représentant résident et au nom du bureau PNUD pour assurer les suivis des activités réalisées par nos partenaires du ministère de l'Intérieur et la commission spéciale sur la réforme de la police avec l'appui du programme d'appui à la réforme de la police, un programme conjoint qui est coordonné par les PNUD en RDC. C'est dans ce cadre que je me retrouve ici dans la province du Kassai Oriental et au-delà de ça aussi rencontrer les autorités de la justice et les autorités provinciales pour certains échanges et même les autorités de la santé puisque nous avons aussi un projet VIH et tuberculose qui est exécuté ici dans la province du Kassai Oriental par les PNUD.
Quel est le rôle que joue le PNUD dans la réforme de la police?
Le PNUD joue plusieurs rôles. À la fois, il y a l'assistance technique. Le PNUD apporte son expertise et son expérience. Ça fait plusieurs années que le PNUD appuie aussi la réforme de la police et sur le plan technique, également sur le plan logistique. Comme cette conférence Kassai Oriental, le PNUD a apporté à la fois un appui technique et un appui logistique pour que cette conférence soit une réalité telle que vous l'avez vécue dans ce beau cadre de l'hôtel La Merveille de Mbujimayi.
Qu'est-ce que le PNUD attend des participants? Il y a les officiers de la police, il y a les acteurs de la société civile et même les autorités politiques et administratives.
Le PNUD attend à la fois un changement de mentalité de la part de la population locale vis-à-vis de la police, puisque la police et la population doivent vivre à l'instar du poisson dans l'eau. Et sans la police, la population ne sera pas sécurisée. Sans la population, la police ne saura pas atteindre ses performances et réaliser de bons objectifs dans ses missions qui lui sont attribuées de par la Constitution. Et au-delà de ça, le PNUD attend l'appropriation des autorités politico-administratives et l'implication de toutes les parties prenantes que vous avez vues dans la salle. Le PNUD souhaite que toutes ces parties prenantes s'approprient tous les textes portant sur la réforme de la police pour que nous puissions atteindre la gare des destinations, c'est-à-dire une police professionnelle, une police respectueuse des droits humains, qui respecte les droits de la femme, les droits de la jeunesse, bref, une police professionnelle. Et pour atteindre ça, ce processus qui est mené et lancé depuis de longues années, le PNUD appuie les efforts du gouvernement en République démocratique du Congo et même dans l'espace Grand Kassai, le PNUD appuie les efforts des gouvernements provinciaux dans la grande région du Grand Kassai comme il le fait au niveau central.
Comment se fera les suivis?
Nous avons une commission qui s'occupe de la réforme de la police. Il y a une commission de suivi pour la réforme de la police et cette commission est en étroite collaboration avec le PNUD. Et le PNUD a des experts qui travaillent avec les experts de la CCRP. À tout moment, il y a des échanges. Des par- partage d'expériences et il y a des évaluations qui se font à la fois en interne. Et nous avons dans chaque province, même ici au Cas-Oriental en Bujima, il y a le commissaire provincial qui est le point focal de la réforme de la police. Et donc même au niveau provincial, nous savons mener les suivis. Pour preuve, vous me retrouvez en Bujima, mais je suis venu de Kananga par route, plus de là.
Après cet atelier, quelle sera la prochaine étape?
Il va falloir continuer à mobiliser toutes les ressources à la fois humaines et financières pour continuer davantage à appuyer la réforme de la police. Et il va falloir assurer les suivis dans tous les territoires, puisque les participants sont venus de tous les territoires. Est-ce qu'ils ont intériorisé tout ce qui leur a été donné comme matière et mettre en œuvre toutes les recommandations qui ont été prises au cours de cette grande activité?
Quelles sont les quelques recommandations qui sont issues de cet atelier?
Au cours de cet atelier, il a été recommandé vraiment aux autorités politico-administratives, par exemple, de savoir qu'elles doivent assumer leurs responsabilités en termes de sécurité des biens et des personnes, mais en collaboration avec un instrument qui est mis à leur disposition par la Constitution et les lois du pays, notamment la police. Il a été recommandé à tous les commissaires territoriaux, les commandants des SIAT et des sous-SIAT, d'assumer leurs responsabilités et de savoir collaborer à la fois avec la population, à la fois avec l'autorité territoriale.
Monsieur Alain Kateta, merci.
Merci Madame Esther Ndarafina.
Notre invité répondait aux questions, bien entendu, de Esther Ndarafina depuis Mbujimayi, où il est 19h20. Ce journal touche à sa fin. La mise en onde était assurée par Pierre Diassinois, la coordination de Jude Mystère Bilanda et la supervision de Jean Gando. Grâce à Mzati était à la présentation. Merci pour votre attention.